Clémence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la course au séquençage. 8 cas suspects de variant Omicron en France, reste à les confirmer. Mais il y en a partout autour de nous. Omicron, le variant sud-africain qui inquiète le monde et fait refermer les frontières. Avant d'en savoir plus sur sa dangerosité ou sa résistance au vaccin, détail dans un instant. Et plan de bataille européen avec votre invité Nicolas.
Oui, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, à notre micro avec Yael Gauze dans une grosse vingtaine de minutes. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
Une semaine de crise aux Antilles et cette fois le ministre des Outre-mer est sur place face à la longue liste de doléances des syndicats et des habitants. Gros plan sur les pénuries d'eau en Guadeloupe à suivre. Dans ce journal aussi, 6 mois de travail sur 2 ans, la réforme de l'assurance chômage entre en vigueur mercredi. Travailler comme des chiens dans des entreprises chinoises, c'est ça aussi la Chine-Afrique. Témoignage édifiant à l'occasion du forum Chine-Afrique de Dakar. Et puis Chambord, où le sauvetage des chefs-d'œuvre du Louvre pendant la Seconde Guerre mondiale. Le château raconte tout de cette histoire oubliée.
France Inter.
Nos voisins l'ont déjà repéré, Omicron, variant venu d'Afrique du Sud et bien présent en Allemagne, en Belgique, en Suisse et en Italie, mais aussi aux Pays-Bas, au Danemark, en Grande-Bretagne. En France, ça n'est plus qu'une question d'heure, a prévenu Olivier Véran. Et de fait, bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
8 personnes sont donc potentiellement contaminées.
Oui, il s'agit de voyageurs revenus d'Afrique australe ces 14 derniers jours, annonce hier soir à 22h de la Direction Générale de la Santé, qui n'en dit pas plus. Pourquoi s'agit-il pour le moment de cas possibles et non confirmés? Eh bien, car les tests ne peuvent repérer directement la présence du variant Omicron. Actuellement, grâce à ce qu'on appelle le criblage, les tests sont capables de cibler 3 mutations. Leur présence permet de déterminer immédiatement s'il s'agit par exemple du variant Alpha ou du Delta. Eh bien, c'est justement l'absence de la détection de ces mutations qui permet de suspecter la présence d'Omicron. Mais seul le séquençage de ces échantillons permettra de confirmer à 100% que ces 8 voyageurs ont été infectés par ce nouveau variant. Et cela peut prendre plusieurs jours. En attendant, ils resteront à l'isolement comme leur cas contact.
Et devant l'inquiétude, Hélène, le conseil scientifique doit donner une conférence de presse ce matin pour faire le point sur ce que l'on sait de ce variant qui inquiète le monde.
Oui, beaucoup d'interrogations demeurent et peu de réponses pour le moment. Mais la fiche d'identité d'Omicron peut faire peur, notamment à cause du nombre de mutations qu'il porte sur Spike, la fameuse protéine clé d'entrée qui permet au virus de pénétrer dans nos cellules. Seule affirmation à l'heure actuelle, Omicron semble très contagieux, a fortiori plus que Delta, puisqu'il a réussi à lui passer devant dans la majorité des provinces d'Afrique du Sud. En revanche, est-il plus dangereux? L'OMS estimait hier soir qu'il était beaucoup trop tôt pour le dire et que cela prendrait plusieurs semaines pour le déterminer. Plusieurs semaines nécessaires également aux laboratoires pharmaceutiques pour savoir si les vaccins resteront efficaces.
Hélène Chevalier, merci. En attendant, l'Europe a donc suspendu tous ses vols avec l'Afrique australe. Un cluster est apparu à Amsterdam parmi les passagers. Les derniers passagers arrivés vendredi d'Afrique du Sud, 13 cas placés en quarantaine, mais 2 d'entre eux, un couple, se sont enfuis hier de l'hôtel où ils étaient isolés, arrêtés dans un avion qui s'apprêtait à décoller pour l'Espagne. Voilà pour l'Europe, mais le variant Omicron a aussi été repéré au Canada, en Australie, en Israël. Israël qui se referme complètement à tous les visiteurs étrangers comme le Maroc et le Japon, quand le reste du monde s'isole de l'Afrique australe. Personne ne tient compte de l'appel de l'OMS pour que les frontières restent ouvertes, ce qui pourrait dissuader de prochains pays de signaler les futurs variants. L'Afrique du Sud a joué la transparence et elle est en train de le payer. Écoutez la colère du président sud-africain Cyril Ramaphosa.
Ces restrictions sont totalement injustifiées et discriminatoires à l'encontre de notre pays et de nos frères d'Afrique australe. Nous appelons tous les pays qui restreignent les voyages à revenir d'urgence sur leurs décisions avant que ces mesures ne provoquent davantage de dégâts à nos économies et aux revenus de nos populations. L'émergence du variant Omicron devrait être un coup de semonce à l'attention du monde. L'inégalité vaccinale ne peut plus durer ainsi. Au lieu d'interdire les voyages, les pays riches devraient plutôt, sans attendre, soutenir les efforts des pays en développement pour accéder à suffisamment de doses de vaccins et à les produire au bénéfice de leur population.
Voilà, des vaccins plutôt que la punition des frontières fermées. Le président sud-africain dans l'œil du cyclone Omicron. Une réunion d'urgence des ministres de la Santé du G7 a été convoquée aujourd'hui par le gouvernement britannique qui préside le G7 en ce moment. Nouveau variant variants, plus cinquième vague. Comme un jour sans fin, depuis pas loin de 2 ans, nous voilà rattrapés. Malgré les vaccins, retour à la case isolement, surtout quand on a des enfants. Les familles serrent les dents en ce moment, comme celle qu'a rencontrée Delphine Evenoux.
Il y a quelques jours, Audrey a senti le vent tourner.
La fille de mon compagnon a commencé à être fatiguée et à avoir mal à la gorge.
Un test PCR plus tard.
En l'occurrence, elle est positive alors qu'elle est vaccinée. Elle est au lycée, elle est en première.
Et comme un bonheur n'arrive jamais seul.
Il y a un enfant de la classe de mon beau-fils qui est positif. Et donc la classe du petit de 10 ans est fermée jusqu'à vendredi prochain.
Et c'est comme un parfum de printemps 2020 qui revient.
On va avoir l'école à la maison, à gérer les 3 enfants. Il y a 2 ans, on en avait que 2. Maintenant, on en a 3. Donc, on va se confiner tous les 5. Ça va être sympa.
Audrey est travailleuse indépendante. Son confinement forcé vient de lui faire perdre le contrat qu'elle devait débuter aujourd'hui. Et la fatigue s'installe.
C'est un peu triste à chaque fois qu'on pense qu'on va pouvoir reprendre une vie normale. En fait, quelques semaines, quelques mois plus tard, ça nous retombe dessus. On fait hyper attention. On est plutôt très précautionneux. Et malgré tout, on passe pas à côté. Là, vraiment, on a l'impression que pour pas être contaminé, il faudrait vivre dans une bulle, quoi.
Toute la famille avait prévu de partir s'aérer un peu fin décembre. La lassitude face au Covid les a fait renoncer.
Et c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur le nouveau protocole dans les écoles. Quand un élève est positif dans une classe, plus de fermeture. Les autres pourront revenir en présentant un test négatif.
Il est 8h07, Florence, dialogue et fermeté aux Antilles.
Voilà comment Sébastien Lecornu décrit l'esprit de son voyage express en Guadeloupe aujourd'hui, puis en Martinique demain, avant de rentrer à Paris mercredi. La fermeté, c'est la condamnation des violences et l'obligation vaccinale que le gouvernement n'entend pas lever, même si elle a été repoussée au 31 décembre pour les soignants et les pompiers. Pour le dialogue, le ministre des Outre-mer a rendez-vous avec les syndicats et les élus ce lundi en Guadeloupe, dont les revendications vont bien au-delà des contraintes sanitaires. Il y a l'emploi, la vie chère, mais aussi les pénuries d'eau qui pourrissent le quotidien de nombreux habitants de l'archipel. Reportage sur l'île de Basse-Terre, signé Yann Gallic.
Dans la commune de Petit-Bourg, les habitants des résidences Nemo et Nautilus n'en peuvent plus. Du lundi au samedi, ils n'ont quasiment pas d'eau qui sort de leur robinet.
Le débit est vraiment très faible, comme vous pouvez le voir. Depuis les 2 ans, on est sur de l'eau le dimanche. Uniquement le dimanche, à débit normal.
Des bouteilles en plastique s'entassent sur le balcon d'Audrey, comme les 200 familles qui habitent ici. Elle a appris à vivre avec cette pénurie d'eau courante.
Quand il y a un peu d'eau, on fait vite tout ce qu'il y a à faire. On remplit les bouteilles. C'est triste, on est en 2021. On est en pleine crise sanitaire, on ne peut pas se laver les mains correctement, prendre une douche, faire une lessive, laver, ou sinon c'est à l'eau minérale.
En Guadeloupe, le réseau d'alimentation en eau est vétuste, son entretien a été négligé pendant des décennies, d'où les problèmes actuels. Rachel est infirmière dans une clinique, elle dénonce l'inaction des élus et des pouvoirs publics.
Dans une structure de soins dans laquelle je travaille, il y a des coupures d'eau. Ça devient aussi problématique pour la santé de nos patients.
C'est un problème qui est récurrent, ça ne date pas d'aujourd'hui, tous les politiciens le savent, donc là maintenant, ça fait beaucoup.
Selon les estimations, il faudrait près d'1 milliard d'euros pour rénover entièrement le réseau d'eau potable en Guadeloupe.
Yann Gallic à Basse-Terre en Guadeloupe. Autre crise sur les côtes de la Manche en France, d'où partent des milliers de candidats à l'exil en Grande-Bretagne. Un avion de l'agence Frontex qui surveille les frontières européennes aura pour mission de survoler le secteur jusqu'aux côtes néerlandaises à partir de mercredi pour signaler les passages et les passeurs. Voilà ce qui a été décidé hier à l'issue d'une réunion des ministres des pays concernés à Calais avec Gérald Darmanin.
Il est 8h09, avoir travaillé 6 mois, Florence, dans les 2 dernières années.
À partir de mercredi, ce sera la condition sine qua non pour toucher les ACEDIC, nouveau volet de la réforme de l'assurance chômage qui entre en vigueur. Elle a ses partisans et ses détracteurs. Côté pour, Stéphane Carcillo, chef de la division emploi et revenus à l'OCDE. Pour lui, la réforme arrive au bon moment pour inciter les chômeurs à retravailler puisque le chômage baisse.
Un élément qui est quand même assez intéressant dans cette réforme, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir des règles qui évoluent en fonction de l'évolution du taux de chômage. Quand le chômage augmente, il n'y a pas de coût d'efficacité à augmenter la générosité ou la durée de l'assurance chômage. Au contraire, ça protège les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités sur le marché du travail. Quand l'économie s'améliore, que les employeurs ont des difficultés de recrutement, ça fait sens aussi de rendre l'assurance chômage plus exigeante en matière de durée de travail parce que ça permet de créer de plus fortes incitations pour accepter des contrats plus longs. Et ça permet aussi à l'assurance chômage de générer des excédents pour préparer les futures crises.
Et pour faire vivre le débat côté contre, Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, cette réforme, selon lui, est comptable avant tout.
C'est une mesure qui vise uniquement à permettre à l'assurance chômage de réduire un peu son déficit. On s'attend en année pleine à des économies de 800 millions d'euros chaque année. Donc on fait peser en fait ces économies sur les chômeurs les plus précaires. Globalement, ceux qui ont du mal à travailler plus de 4 mois, c'est les personnes qui ont énormément de difficultés à retrouver un emploi et qui ont des salaires qui tournent aux alentours de 1300 euros en mensuel. Donc globalement, c'est des mesures de rendement qui ont vocation à économiser un peu moins de 1 milliard d'euros chaque année.
Voilà pour ce débat d'économistes avec Kathleen Comte. Chine-Afrique, l'alliance mondiale du moment à son forum qui commence aujourd'hui à Dakar. La Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique ces dernières années. 3000 entreprises implantées et des milliers d'emplois à la clé. Avec des conflits parfois sur les conditions de travail imposées par les patrons chinois. Témoignage d'un ancien salarié d'une entreprise chinoise au micro de Marouaman, correspondant de France Inter à Dakar.
Depuis son inauguration en grande pompe en janvier 2020 par le président Macky Sall, l'entreprise chinoise de céramique Twyford enchaîne les conflits sociaux. En cause, les conditions de travail.
Dès le début, ça n'allait pas bien. Ils nous traitaient comme des esclaves. C'était pas ce qu'on imaginait.
Aliou Ndiaye a travaillé près d'un an dans cette usine installée aux portes de Dakar. Il raconte les bas salaires, les journées de plus de 12 heures sans pause et les nombreux accidents du travail.
Les travailleurs étaient exposés à des accidents parce qu'ils n'avaient pas de protection adéquate, pas de masque adéquat, de casque, de gants aussi. Et donc c'est ce qui causait beaucoup d'accidents, comme des doigts qui étaient coupés, des blessures aux yeux, parmi tant d'autres.
L'entreprise compte près d'un millier de salariés qui ont fini par se mobiliser pour défendre leurs droits, mais sans succès devant l'absence de dialogue social.
Il n'y avait pas de dialogue possible avec la direction. Ils nous disaient au Sénégal, le taux de chômage est élevé, donc soit vous voulez vous rester, soit vous ne voulez pas, d'autres vont venir qui vont accepter nos conditions.
Et cette situation n'est pas un cas isolé. En Afrique. Ces dernières années, plusieurs mouvements sociaux ont secoué des entreprises chinoises installées sur le continent. Dakar, Omar Waman, France Inter.
Dans le Puy-de-Dôme, l'autoroute A89 a rouvert ce matin, fermée depuis la fin de journée d'hier. 1500 véhicules bloqués par la neige ont fini par être évacués vers 1h du matin. Des animaux à l'école. On connaissait les insectes en vivarium, les poules, pourquoi pas, dans un recoin de la cour de récré. Voici des chatons qui font leur vie à l'intérieur des classes, parti pris d'une école d'Aiguzon dans l'Indre. Deux chatons s'y baladent en liberté depuis 15 jours et apparemment ça fait du bien à tout le monde et même aux apprentissage. Emeline Ferry, reportage soyeux et ronronnant.
Ils sautent de bureau en bureau pour réclamer des câlins. Les deux chatons ont vite adopté leur nouvelle maison.
Ils sont mignons, ils sont gentils et ils viennent tout le temps nous voir.
Ils jouent avec nos stylos.
Non, il faut pas trop de bêtises.
Puis quand ils sont contents, et du coup ils ronronnent.
Il a fallu voter pour choisir leur nom.
Lui c'est Obélix et l'autre c'est Axéris.
Et chacun a déjà son petit caractère, raconte Célia.
L'autre il est plus cascadeur et puis lui il reste plus dans les bras des fois. Et il est plus sage.
Les élèves comme les enseignantes, tout le monde est sous le charme, reconnaît la directrice Sophie Grenon.
On est toutes plus ou moins gaga hein, là dans l'école. C'est vrai que tout le monde est très très content quoi. Ce sont des chatons qui sont adorables, c'est que du bonheur.
Et derrière la calinothérapie, il y a un véritable enjeu pédagogique.
Favoriser le calme, la concentration, c'est-à-dire que les enfants savent que s'ils veulent que les chatons viennent vers eux, ils ne peuvent pas être agités. Il y a des élèves qui ont des difficultés en classe, mais qui se révèlent très sérieux et très appliqués pour ce qui est de s'occuper des animaux.
Une démarche que les enfants ont bien compris, mais bon, difficile de résister devant ces jolies boules de poils, n'est-ce pas Naomi ?
J'essaye de ne pas trop les regarder parce que je ne veux pas les embêter. Mais c'est tellement craquant, donc je les caresse et après je fais mon travail avec.
Pendant les vacances, les deux chatons resteront dans l'école, les profs se relaieront pour venir s'en occuper. En plus des trois poules et des trois lapins.
La ménagerie à l'école, reportage signé Emeline Ferry, France Bleu Berry. Il était l'avenir de la mode. L'américain Virgil Abloh, créateur des collections hommes chez Vuitton, est mort hier à l'âge de 41 ans. Premier grand styliste noir reconnu dans le monde entier, fan de hip-hop. Il avait commencé par être le consultant artistique de Kanye West. Le monde de la mode lui rend hommage. Kylian Mbappé et Omar Sy aussi. De l'impatience sous les crampons, le Ballon d'Or 2021 sera décerné ce soir. soir au Théâtre du Châtelet à Paris, qui récompense chaque année le meilleur joueur de foot. Alors Messi, Ronaldo, Jorginho, Benzema ou Lewandowski, ce sont les favoris. Réponse ce soir à partir de 21h. Enfin, je vous propose de partir pour Chambord maintenant et son château, chef-d'œuvre de la Renaissance, on le sait. Ce qu'on sait moins, en revanche, c'est que le château abrita les plus grands chefs-d'œuvre du Louvre, dont la Joconde et des œuvres d'autres musées parisiens pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est cette histoire que raconte la nouvelle exposition permanente de Chambord, sous ce titre, Isabelle Pasquier, Sauver un peu de la beauté du monde.
Par peur d'un bombardement de Paris le 23 août 1939, le Louvre déménage ses collections les plus précieuses. Direction Chambord, 5446 caisses, parmi lesquelles la Joconde. Mais il y a aussi des chefs-d'œuvre du château de Versailles, du jeu de paume de l'Élysée, 51 convois avec des camions prêtés par la Comédie française. Chambord va devenir un immense musée avec des Courbet, Corot, Delacroix, Alexandra Fleury, responsable de l'exposition.
La Joconde est évidemment la plus connue de tous avec les quatre passages qu'elle effectue à Chambord, mais d'autres œuvres seront ici tout aussi importantes. Il y a notamment La Liberté guidant le peuple, l'intégralité de la collection des dessins du Louvre, 100 000 feuilles de dessins, la tenture de la Dame à la licorne qui restera là toute la guerre. Il y a une collection contemporaine des tableaux, des dessins de Bonnard, de Gauguin, de Vuillard, de Toulouse-Lautrec, comme La femme au boa noir.
Les plus grands collectionneurs juifs ont également confié leurs œuvres au Louvre, mais la plupart ont été saisies par les nazis en 1941. La Joconde, elle, partira en zone libre. À Chambord, les chefs-d'œuvre ont échappé au pire. Par mesure de représailles, des Allemands voulaient faire sauter le château. Ensuite, un avion américain s'est écrasé dans le jardin, sans compter un incendie en 1945.
Sauver un peu de la beauté du monde, à voir pour toujours, peut-être, au château de Chambord.
Merci, Florence Paracuelos. La météo, Stéphanie Fromantin.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Stéphanie, le ciel reste chargé.
Et des averses arrivées hier soir par la Manche ont gagné ce matin le centre Val-de-Loire, puis l'ouest du Massif central, donnant de la neige et du verglas. 11 départements restent en vigilance orange pour risque de neige-verglas. Au centre, Corrèze, Creuse, Puy-de-Dôme. À l'est, l'Ain, Savoie, Haute-Savoie et Isère. Et au sud-est, Ariège, Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. Ces deux derniers sont aussi en vigilance orange-avalanche. Mais dans l'ensemble, la situation s'améliore, la neige diminue, les chutes d'aujourd'hui sur les massifs seront éparses et saupoudrées. Le soleil va briller autour de la Méditerranée au prix d'un vent parfois assez fort, 70-80 km par heure. Ailleurs, à l'ouest d'un axe Clermont-Ferrand-Nevers-Lille, le ciel offre de belles éclaircies. Alors qu'à l'est de cet axe, le ciel reste plus chargé.
Et les températures sont glaciales.
Et le vent accentue cette sensation de froid. Au sortir de la nuit, ne comptez pas sur plus de moins 3 à 0 degrés en général. Le réveil est plus doux près des côtes, 2 à 5 degrés. Il fait moins 4 à Aurillac, moins 2 à Beauvais et Saint-Étienne. Cet après-midi, les valeurs ne grimpent que peu, 2 à 5 degrés en général. Il fait toujours plus doux en bord de mer. 2 degrés à Épinal, 6 à Carcassonne, 8 degrés à Paris et 10 à Boulogne-sur-Mer.
Stéphanie Fromantin, merci. Il est 8h10. 19, vous écoutez France Inter, Géopolitique.